Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrons notre Bible au psaume 19. Comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai commencé à partager avec vous sur le thème de la toute suffisance des Écritures. Je voudrais conclure ce bref intermède au milieu de notre étude de 1 Timothée en revenant sur ce sujet. Je veux que nous nous concentrions sur un passage, le psaume 119. De temps en temps, j'ai l'habitude de prendre un des livres des puritains dans ma bibliothèque et de m'installer confortablement dans un fauteuil pour le lire. Cette semaine, je lisais le grand passage dans lequel Thomas Watson parle des Écritures et une de ses affirmations m'a semblé bien convenir pour nous ici. Il disait, je le cite, « Le diable et ses agents soufflent pour éteindre la flamme des Écritures sans y parvenir. C'est un signe clair que cette lumière vient du ciel. » Fin de citation. La semaine dernière, je vous ai partagé ma conviction qu'un groupe que nous ne soupçonnerions pas est en train de souffler pour tenter d'éteindre la flamme rayonnante des Écritures. Le plus surprenant est que l'attaque qui m'inquiète le plus concernant la parole de Dieu semble venir non pas de ceux qui nient que la Bible est la parole de Dieu, mais de ceux qui affirment qu'elle l'est. Il me semble qu'une des menaces les plus subtiles et dangereuses concernant la parole de Dieu vient de la catégorie des chrétiens évangéliques, des gens qui affirment croire que la Bible est la parole de Dieu, mais qui la trahissent en montrant un manque de confiance en sa toute suffisance et qui, en conséquence, parle en mal de la parole de Dieu. Lire la parole, enseigner la parole, proclamer la parole, obéir à la parole, la vivre, ne semble pas être suffisant pour beaucoup sur les questions de vie et de conduite dans la dimension spirituelle. Je suppose que ces personnes développent ce qu'elles pensent être des supports nécessaires pour soutenir la Bible. Peut-être pense-t-il qu'une sorte de transfusion est nécessaire pour lui donner la puissance dont elle semble manquer en elle-même. Je crois, comme je l'ai relevé la dernière fois, qu'il s'agit d'un péché grossier contre Dieu et contre sa parole, et que cela montre un sérieux manque de confiance en la toute suffisance des Écritures. Comme je l'ai relevé la dernière fois, le mouvement presque unanime de l'Église évangélique tend à utiliser la psychologie pour résoudre les problèmes des hommes, à rechercher des méthodes favorisant la croissance de l'Église sur le modèle mondain de l'entreprise et de ses structures, à demander le pouvoir politique comme une clé pour le réveil, comme certains disent, à demander des miracles, des signes et des prodiges, et de nouvelles révélations et des actes surnaturels, à pervertir le simple évangile et la véritable parole de Dieu pour en faire une sorte de gospel pop de la prospérité, de l'indulgence, de la sensualité, du succès propagé par des célébrités qui sont supposées posséder de grandes capacités pour toucher le public que la simple parole ne pourrait jamais atteindre. Toutes ces choses sont pour moi révélatrices non seulement de la terrible mondanité de l'Église, mais aussi de la très triste vision affaiblie des Écritures. Je me trouve forcé de poser la question suivante. La Bible est-elle vraiment toute suffisante pour ce qui concerne la vie spirituelle ? Est-elle suffisante pour le peuple de Dieu et pour toutes les ressources nécessaires pour vivre pleinement dans la volonté de Dieu? Ou bien avons-nous besoin d'admettre que la Bible a des limites flagrantes qui ne peuvent être surmontées que par la sagesse et les techniques développées par les hommes bien-pensants, prêts à apporter un peu d'aide à Dieu? Pour répondre à la question de savoir si la Bible est toute suffisante, je veux que vous lisiez avec moi le psaume 19, qui est, je crois, le texte parlant le plus courtement et directement de la toute suffisance des Écritures dans toute la parole de Dieu. En fait, nous comparerons le psaume 19 au psaume 119, car ils contiennent de nombreux parallèles. Laissez-moi dire pour commencer que David, qui est l'auteur du psaume 19, était un homme qui comprenait les situations extrêmes et les exigences et les vicissitudes et les luttes et les défis et les problèmes et les tribulations de la vie à un point que peu de personnes ont connu. Il savait ce que c'était que de voir sa vie menacée continuellement. Il savait ce que c'était que de tomber au plus bas dans le péché. Il savait ce que c'était que de trahir une confiance sacrée, monumentale. Il savait ce que signifie de voir ses propres enfants se rebeller contre soi. Il savait ce que signifient des mariages qui se passent mal et des circonstances familiales affligeantes. Voici un homme qui parle du plus profond de l'émotion humaine et pourtant, il trouve une parfaite suffisance en la parole de Dieu. Le psaume 19, en guise d'introduction générale, a pour but de nous transmettre la signification de la révélation de Dieu. Tout d'abord, des versets 2 à 7, nous lisons ce qui concerne la révélation de Dieu dans la nature. Dieu s'est révélé dans le ciel, le verset 2 dit, et déclare sa gloire. Dans le firmament, tous les corps étoilés démontrent l'œuvre de ses mains. Il s'agit ensuite de la course du soleil et de son merveilleux parcours orbital dans l'univers. Et tout cela est symbolique de la révélation naturelle, ce que les théologiens ont appelé « révélation générale » pendant des années. Dieu se révèle dans sa création, tout comme dans Romains 1. Je cite, « Les choses que nous voyons nous révèlent qu'il existe un Dieu et qu'il est éminemment puissant. » Mais sa parole contient une révélation encore plus spécifique, et le psalmiste y revient au verset 8. Et dans la seconde partie du psaume, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15, l'accent est mis sur une révélation spéciale, la révélation de Dieu dans les Saintes Écritures. Nous voulons regarder à cela et nous trouvons, en lisant les versets 8 à 15, la toute suffisance des Écritures. En fait, je veux souligner trois choses, si possible, ce matin. La toute suffisance de l'Écriture, la valeur de l'Écriture et finalement, l'engagement envers l'Écriture. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que je veux que vous écoutiez très attentivement. Par nécessité, je vais couvrir un contenu important assez rapidement. Je veux que vous soyez attentifs et réfléchis, car je crois vraiment qu'il s'agit d'un message fondamental pour notre engagement envers la parole de Dieu. Pour commencer, remarquons la toute suffisance de l'Écriture des versets 8 à 10. Suivez le texte pendant que je lis. « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. » Je voudrais que vous notiez pour le moment la structure de ces trois versets. Il y a six pensées et chacune contient trois éléments. Il y a un titre définissant la parole de Dieu, une caractéristique de la parole de Dieu et un bénéfice de la parole de Dieu. Les titres sont « L'Écriture est appelée « loi »,« témoignage »,« ordonnance »,« commandement »,« crainte » et « jugement ». Tous ces mots sont synonymes d'écriture. Ces caractéristiques sont « parfaites »,« véritables »,« droites »,« pures » et « vraies ». Les six bénéfices sont « Elle restaure l'âme, elle rend sage l'ignorant, elle réjouit le cœur, elle éclaire les yeux, elle subsiste à toujours, elle est juste dans sa totalité », c'est-à-dire qu'elle pourvoit à tous nos besoins spirituels. Ici, dans ces trois versets cohérents avec l'intelligence infinie de la pensée infinie de Dieu, vous voyez un énoncé absolument complet et incomparable au sujet des Écritures, réduit à très peu de mots. L'ampleur de ce passage des Écritures défie notre intelligence au-dessus de nos capacités. Je veux que vous remarquiez un autre élément en six points. Six fois, dans ces trois versets, nous lisons « de l'Éternel ». La loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, les jugements de l'Éternel ou les ordonnances de l'Éternel. Encore une fois, nous notons ici que ceci représente ce qui vient de Dieu. Six fois, le nom du Dieu de l'Alliance, Yahweh, est utilisé pour identifier la source de la parole pleinement suffisante. Nous avons ici, dans le psaume 19, au travers du psalmiste, le propre témoignage de Dieu de la pleine suffisance des Écritures pour combler nos besoins spirituels. Voyons maintenant ces 6 points. Le premier est dans le verset 8. Il est écrit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » Le premier titre donné aux Écritures est « loi ». Il nous donne un aspect de la parole de Dieu. Le mot utilisé est le mot « Torah ». Il signifie « biblique » ou « enseignement divin ». Il indique l'enseignement ou la nature didactique des Écritures. C'est Dieu qui instruit l'homme. Ce terme fait référence à l'instruction. Il identifie les Écritures en tant que doctrine donnée par Dieu à l'homme. Il s'agit d'instructions divines relatives à la croyance, ce que nous croyons, relatives au caractère, ce que nous sommes, et relatives à la conduite, ce que nous faisons. Il est une explication complète des instructions de Dieu pour la vie de l'homme. Il s'agit d'un enseignement de Dieu pour la vie. Cet enseignement qui transparaît dans les pages des Saintes Écritures, le verset 8, dit qu'il est parfait. Il est parfait. Jacques l'a même appelé la loi parfaite. Il est présenté par le psalmiste en contraste avec les marques d'imperfection des hommes. Afin de comprendre le mot « parfait », nous devons seulement comprendre qu'il s'agit d'un mot courant qui signifie « parfait » ou « dans son entier » ou « complet » ou « suffisant ». En fait, un érudit de l'Ancien Testament dit que le sens intégral est, je cite, « sur tous les côtés afin de couvrir complètement tous les aspects de quelque chose ». C'est un mot qui exprime le fait d'être complet. Ce qui signifie donc que l'Écriture couvre toute chose. Il ne lui échappe rien. Rien ne lui échappe. Il s'agit d'une source d'enseignement complète qui vient de Dieu et donc elle contient tout ce qui est nécessaire à la vie spirituelle du peuple de Dieu. Maintenant, l'accent qui est mis dans l'énoncé du verset 8 indique que sa perfection est liée au fait de convertir l'âme. Et nous trouvons ici l'un des 6 bénéfices. L'Écriture convertit l'âme. Le terme hébreu qui signifie convertir peut aussi signifier raviver, restaurer, rafraîchir. Convertir. Mais mon synonyme favori est transformer. Il contient l'idée que l'Écriture est si complète que, si elle est littéralement suivie, elle peut transformer une vie. Elle donne la plénitude à tous les aspects de l'âme. En ce qui concerne le mot âme, c'est aussi un mot familier. Nefesh. Il signifie la personne ou soi-même ou le cœur. Il peut être traduit de ces différentes façons. La somme de tous ses sens est l'être intérieur, la personne dans son entier, le moi véritable. La parole est donc si complète qu'elle peut totalement transformer votre être intérieur, votre personne dans son entier. Elle est donc toute suffisante pour une conversion, pour une transformation, pour une restauration, pour une naissance spirituelle et pour la croissance en vue de la perfection de la personne dans son entier. Cela évoque vraiment la lettre de Paul à Timothée. 2 Timothée 3, du verset 15 à 17, où Paul rappelle à Timothée que l'Écriture est capable de nous donner la sagesse en vue du salut. Non seulement cela, mais aussi de nous rendre parfaits, pleinement préparés à toute bonne œuvre. La parole de Dieu a le pouvoir de la transformation totale. Elle est si complète qu'elle peut modeler une âme, une personne vivante, en ce que Dieu désire précisément que cette personne devienne. Et cela commence à la conversion. Dans 1 Pierre 1, nous lisons le même témoignage au verset 23. Je cite « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » En d'autres termes, la nouvelle naissance ou la conversion, la transformation est accomplie par la parole de Dieu. Et dans le verset suivant, il dit, je lis, « Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Il s'agit donc de la parole qui convertit l'âme. Paul a dit, je cite, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Dans Romains chapitre 1, verset 16. La parole, par sa puissance, est donc capable de transformer une vie. Elle est l'agent de la nouvelle naissance. Et pourtant aujourd'hui, il me semble qu'il y a des gens qui ne croient pas en la puissance de la parole de Dieu. Ils pensent que la parole de Dieu, à cause de certaines inadéquations ou d'impotences, doit être assistée par la mise en forme d'une chanteuse rock mondaine et sexy qui, entre guillemets dans Eternity, Magazine associe à sa représentation de l'histoire ancienne une légère vulgarité, fin des guillemets. Ou bien la parole de Dieu est-elle si faible, sans puissance en elle-même, qu'elle ne peut convaincre que lorsqu'elle est répandue par une célèbre superstar, célèbre à cause de sa célébrité et non à cause de son caractère de sainteté ou de ses grandes compétences dans la parole. Elle est célèbre, non pas à cause des grandes choses qu'elle accomplit pour Dieu ou pour son caractère de sainteté, mais parce que les médias l'ont rendue célèbre pour le seul fait d'être célèbre. Devons-nous croire que ces célébrités peuvent faire ce que la parole ne peut pas accomplir? Ou avons-nous besoin de faire appel aux émotions des gens sur la base de leurs sentiments, de leur égo blessé et de leurs besoins d'estime d'eux-mêmes, altérant ainsi le difficile évangile pour le rendre très simple afin que les gens l'acceptent peut-être sans même savoir de quoi il s'agit vraiment? Ou bien est-ce que l'évangile, parce qu'il est en lui-même faible, doit-il être pollué par des promesses de réussite matérielle? Pourquoi les évangélistes de la télévision nous disent que si seulement nous leur envoyons de grandes sommes d'argent, et si nous croyons, alors notre « entre guillemets » graine de foi nous rapportera plus que ce que nous pouvons imaginer? Est-il nécessaire d'ajouter de l'argent à l'évangile pour le rendre acceptable? Car en lui-même et par lui-même, il ne peut convertir l'âme. L'Écriture est-elle si insuffisante pour le salut que nous avons besoin de congrès chrétiens et nous avons besoin du contrôle du gouvernement pour régénérer une nation? Est-ce vraiment le plan de Dieu que les hommes appelés à prêcher les richesses insondables de la parole de Dieu laissent de côté la parole de Dieu non pas pour servir à table, mais pour devenir des politiciens activistes et des lobbyistes espérant surmonter les déficiences de l'Écriture grâce à la puissance de l'homme? Pensons-nous que l'Évangile détourne des personnes lorsqu'il vient directement de la parole de Dieu, et donc qu'ils doivent entrer dans un plan de marketing acceptable, vendable et sophistiqué qui montre à l'acheteur potentiel principalement ce qu'il peut en tirer pour lui-même? Maintenant, que sommes-nous en train de dire au travers de tout cela? Il me semble que nous sommes en train de dire que nous ne faisons pas confiance à la puissance parfaite de la parole de Dieu pour convertir l'âme. La parole est l'océan où Christ, la perle de grand prix, se trouve. La parole est le champ où Christ, le trésor caché, est enfoui. Et le témoignage du psaume 119 affirme certainement ceci, et nous ferons des parallèles tout au long de notre étude. Le psaume 119, au verset 41, dit « Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. » Le salut, dit le psalmiste, est lié à la parole de Dieu. Dans le verset 50, il est écrit « C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Verset 81 « Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. » Le verset 146 dit aussi « Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. » Verset 155, il est écrit « Le salut est loin des méchants, car ils ne cherchent pas tes statuts. » En d'autres termes, tout se trouve dans la parole, et ce n'est pas l'endroit où ils cherchent. Au verset 158, « Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. » Verset 174, « Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. La parole du Dieu vivant est toute suffisance. » Il n'est pas surprenant que Paul ait dit « Prêchez la parole ». La parole est pleinement suffisante pour convertir l'âme. Deuxièmement, le psalmiste dit que le témoignage de l'Éternel est sûr. Il rend le simple sage. Et il va plus loin pour édifier cette magnifique présentation de la pleine suffisance de l'Écriture. Il utilise le mot « témoignage » qui décrit la parole de Dieu non pas comme une instruction divine, mais comme témoignage divin. Dieu donne ainsi témoignage de qui il est et de ce qu'il demande. Donc, si nous regardons au témoignage que Dieu donne de lui-même dans sa parole, nous voyons que son témoignage est, comme dit le psalmiste, sûr. Il est sûr, encore une fois, en contraste avec les notions humaines de manque d'assurance, d'insécurité, de tendances changeantes, décalées, qui n'inspirent pas confiance ou qui ne méritent pas notre confiance, la parole du Dieu vivant est sûre. Et ce mot signifie « qui ne change pas », immuable, indubitable, digne de confiance et fiable. La parole pose aussi des fondements sur lesquels notre vie et notre destinée éternelle peuvent s'établir sans hésitation. je me souviens de ce que Pierre disait dans 2 Pierre au premier chapitre. Il se préparait à sa rencontre personnelle avec la majesté de Christ au moment de la transfiguration et il dit « J'étais présent lorsqu'il a été transfiguré. J'ai vu la gloire magnifique dans cette scène merveilleuse où les héros de l'Ancien Testament sont apparus et nous étions présents sur la montagne dans le merveilleux de la gloire surnaturelle. C'est pourquoi, dit le verset 19, nous croyons d'autant plus fermement à leur message. L'expérience surnaturelle, les signes et les prodiges ont leur place, Pierre dit. Nous croyons d'autant plus fermement à leur message. Et ce message est l'Écriture qui nous est donnée, parce que des hommes saints ont été utilisés par l'Esprit de Dieu. L'Écriture est ce message auquel nous croyons fermement. Contrairement aux raisonnements incertains, aux songes et opinions des hommes à propos de Dieu et de la moralité, nous pouvons nous appuyer sur l'Écriture. Quel bénéfice offre-t-elle? Notez encore, elle permet de rendre le simple sage. La racine du mot hébreu qui signifie « simple » exprime l'idée d'une porte ouverte. Une personne simple est une personne qui manque de discernement. Elle ne sait pas quand fermer la porte. Elle ne sait pas ce dont elle doit se protéger. Elle est ouverte à tout. Elle manque de discernement. Elle manque d'instruction, d'expérience. Elle est ignorante et naïve. Mais elle peut devenir sage. Par quels moyens? La parole de Dieu. L'Écriture fait du naïf qui manque d'expérience, de discernement et d'instruction à un individu sage. J'aime le mot sage. C'est un mot hébreu riche. Il signifie, premièrement, avoir les compétences nécessaires pour vivre selon la volonté de Dieu, savoir comment vivre de façon pratique. Il s'agit de savoir maîtriser l'art de vivre au quotidien, et ceci s'accomplit par la connaissance et l'application de la parole de Dieu. Et au fait, dans l'histoire, Dieu est toujours la source. Il s'agit de la sagesse dont Jacques dit qu'elle vient d'en haut. L'Ancien Testament définirait cette sagesse comme la capacité de faire de bons choix pour des causes justes au bon moment de la vie. Et voici une merveilleuse promesse. La parole de Dieu peut prendre quelqu'un de naïf, inexpérimenté, sans discernement, sans instruction et ignorant, et lui donner une telle sagesse qu'il peut vivre sa vie selon la volonté de Dieu. Et ceci grâce à la parole de Dieu. Elle est la source de tout ce dont nous avons besoin pour appliquer la volonté de Dieu à la vie quotidienne. Pouvons-nous croire encore que la parole de Dieu n'est pas pleinement suffisante? Pouvons-nous croire que nous pouvons trouver dans les connaissances humaines qui nous entourent, que ce soit la sociologie, la psychologie, la philosophie, la sagesse humaine, ce qui manque à la parole de Dieu? Est-il vraiment nécessaire que les prédicateurs sortent de la Bible pour, entre guillemets, rendre la vérité pertinente et pratique? Comme je l'entends souvent. Écoutez, Dieu dit lui-même que sa parole est pleinement suffisante pour rendre le simple sage en ce qui concerne l'art de vivre selon la volonté de Dieu. Écoutez encore le merveilleux témoignage du psaume 119, ce très long psaume en l'honneur de la parole de Dieu. Le psalmiste dit dans le verset 27, « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. » Autrement dit, il fait appel à Dieu pour l'enseigner. Car Dieu connaît le bon chemin, la bonne façon de vivre. Le verset 34 dit « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Elle est la source de la sagesse. » Au verset 66, il est écrit « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Des versets 98 à 100 « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Nous avons davantage de connaissances que tous ceux qui répandent la connaissance humaine. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Au verset 100, il est écrit « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes commandements. » Au verset 104, il est écrit « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. » Au verset 125, il est écrit « Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. » Verset 169. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Vous voyez que le psalmiste savait que la source de la sagesse est dans la parole de Dieu, dans l'Écriture. Est-elle pleinement suffisante? Elle est pleinement suffisante pour transformer l'âme. Elle est pleinement suffisante pour amener la sagesse parfaite dans la vie quotidienne à la gloire de Dieu. Troisièmement, relevons le verset 9 du psaume 19. « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. » Où un croyant trouve-t-il la joie? Où un croyant trouve-t-il le repos, le bonheur, la délivrance du chagrin, de l'anxiété et de la dépression? Dans quelle direction peut-il aller? Où peut-il trouver ce dont il a besoin? Le psalmiste témoigne qu'il trouve tout cela dans la parole. C'est la parole qui réjouit le cœur. Le terme employé ici pour écriture est le mot ordonnance. Il signifie enseignement non divin. Et pourtant, dans un sens, il comprend l'enseignement divin. Il contient l'idée de témoignage non divin, même si précisément il inclut le divin. Il s'agit davantage de principes divins, de directives et de préceptes divins. L'écriture est pleine de directives, venant de Dieu pour notre vie. Maintenant, remarquez qu'il est dit dans le verset 9, « Elles sont droites », c'est-à-dire qu'elles indiquent le bon chemin, elles indiquent la bonne direction. Elles guident de façon juste vers une bonne compréhension. Quelle chose merveilleuse! Je veux dire, pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens depuis longtemps, que de repenser au moment où nous devions trouver notre chemin sans savoir que faire. Quel héritage nous avons dans la parole de Dieu qui trace un bon chemin devant nous. Nous ne sommes pas abandonnés sans carte ni boussole. Nous ne sommes pas abandonnés sans principes qui permettent de nous guider dans la vie. Nous ne sommes pas errants dans un brouillard d'opinions humaines. Nous avons une parole véritable à suivre. Et le résultat est que nous marchons sur un chemin droit qui réjouit le cœur. Je crois que la joie véritable vient de ce que nous suivons la parole de Dieu, que nous appliquons ses principes et que nous marchons dans ses préceptes et sur le chemin tracé. Jérémie, au milieu d'une période de grand stress humain, avec le rejet de son message, le rejet de sa personne, le désastre pour toute une nation, a donné un grand témoignage de la joie qui vient de la parole dans le 15e chapitre de sa prophétie. Au verset 16, il dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la dégresse de mon cœur. » Et Jean écrit dans son épître 1 Jean 1, verset 4, que, je cite, « Ces choses sont écrites afin que notre joie soit, comment, soit parfaite. La parole de Dieu témoigne du fait qu'elle est la source de la joie. Et lorsque nous marchons dans l'obéissance à la volonté de Dieu, lorsque nous avançons sur ce chemin juste, cela réjouit notre cœur. Avons-nous besoin d'entendre des voix qui viennent du ciel, de parler avec les anges et de vivre des expériences surnaturelles et des miracles? Et devons-nous dépendre des sciences mystiques de notre intelligence pour que Dieu nous conduise dans la plénitude de sa joie? Ne pouvons-nous pas suivre sa parole? Est-ce que les personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété, de crainte ou de doute, ne sachant dans quelle direction aller, ou bien celles qui souffrent de maladies plus ou moins graves, ne peuvent-elles pas se tourner vers la parole de Dieu pour trouver la solution et la réponse, les directives qui transformeront leur malheur en joie? Je crois que le témoignage de l'Écriture indique que notre véritable plaisir, nos délices, viennent de ce que nous suivons le chemin tracé par la parole de Dieu, non pas en cherchant égoïstement à combler notre estime de nous-mêmes, nos besoins et nos attentes. En fait, je crains que les personnes qui fuient la parole de Dieu pour aller chez les psychiatres du monde et vers les sources proposées par le monde, vers les choses matérielles de ce monde, passent à côté de la joie et s'en éloignent. Ils obtiennent finalement un moindre résultat par rapport à leurs attentes et ils se trouvent plus éloignés de la source qu'ils ne l'étaient au départ. Le témoignage de l'Écriture elle-même est qu'elle est une source, en fait la source de la joie du croyant. Encore une fois, dans le psaume 119, où nous allons pour confirmer le témoignage de l'Écriture, dans le verset 14, le psalmiste écrit « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Si seulement nous pouvions dire aujourd'hui que les gens sont aussi intéressés par la parole de Dieu que par le matérialisme. Si seulement nous pouvions dire que nous présentons vraiment l'évangile de la parole de Dieu et non un évangile de prospérité. Dans le verset 54, nous disons « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. » L'un des plus beaux versets des psaumes « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. » Ma vie a été bercée par les chants parlant de ta loi, c'est-à-dire qu'il m'apporte la joie qui déborde dans la musique de mon cœur. Dans le verset 76, il dit « Que ta volonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. » Dans le verset 111, il est écrit « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Au verset 114, il est écrit « Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Je vais vers toi, Dieu, pris par mes besoins, mon chagrin et ma tristesse. L'écriture est assez parfaite pour convertir l'âme, assez sage pour rendre le simple profond et capable de rendre joyeux celui qui est triste. » Quatrièmement, vous remarquerez à la fin du verset 9, les commandements de l'Éternel sont purs. La meilleure traduction est claire. Ils éclairent les yeux. Et il utilise ici le mot « commandement ». On peut aussi voir l'écriture comme un commandement. Oui, l'écriture est un ensemble de préceptes. Oui, elle instruit. Oui, elle est un témoignage. Mais elle est aussi l'ensemble des décrets de Dieu. Nous trouvons ici l'accent mis sur l'autorité, le caractère de l'écriture que nous ne pouvons ignorer. La Bible n'est pas remplie de suggestions. Il s'agit de commandements, des commandements contraignants, pleins d'autorité. C'est ce que Dieu exige, et pour ceux qui obéissent, vient la bénédiction. Pour ceux qui n'obéissent pas, vient le jugement. Et la parole de Dieu qui nous est donnée comme des commandements de Dieu, le psalmiste dit qu'ils sont clairs, c'est-à-dire lucides. Ils ne sont pas trompeurs, ils n'apportent pas la confusion ou le doute. Oh oui, certaines parties nous paraissent obscures, mais la parole de Dieu en général, telle que nous la lisons, est claire. Elle est facile à déchiffrer, elle donne une direction claire à notre vie. L'Ancien Testament dit qu'un homme qui cherche son chemin, même s'il est stupide, n'a pas besoin d'errer. La parole illumine les ténèbres. Lorsqu'il y a des ténèbres sur le monde et nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous ne savons pas pourquoi les choses arrivent, la parole de Dieu rend les choses claires, contrairement aux pensées confuses d'hommes qui sont eux-mêmes aveugles. Afin de pouvoir discerner la vérité dans ce monde, luttant pour savoir ce qui est vrai, pour comprendre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, pour comprendre et se sentir réconforté dans les moments où nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe, dans des temps comme ceux que Job a connus, toute la connaissance des choses qui nous surprennent est révélée dans la parole de Dieu, à tel point que nos yeux peuvent être suffisamment éclairés. Quelle formidable vérité ! La parole de Dieu est toute la révélation dont nous avons besoin. Elle est claire, elle est facile à comprendre, elle ne laisse planer aucun doute sur la nécessité de la vérité. Proverbe 6, verset 23, il est écrit « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, le chemin de vie. » Nous pouvons nous poser la question, la Bible est-elle si insuffisante qu'elle ne peut pas nous montrer ces choses et donc nous sommes poussés à dépendre de la sagesse du monde? Devons-nous aller demander aux hommes de nous expliquer ce qui se passe? Avons-nous besoin d'autres révélations? Avons-nous besoin de psychanalyse pour régler nos problèmes spirituels en demandant conseil à des sources qui ont depuis longtemps rejeté l'Écriture en tant que source de vérité? La Bible est-elle si incomplète que nous devions nous tourner vers la science pour nous expliquer l'origine, vers la philosophie pour expliquer la vie et vers la sociologie pour expliquer ce qu'est le péché? Non, toute la lumière de la vie se trouve dans la parole de Dieu. Et encore, j'attire votre attention sur le psaume 119. Remarquez le verset 52. Je cite « Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Au milieu de la détresse, je suis retourné à la parole et j'ai été consolé. » Remarquez le verset 59. « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. J'ai regardé le chemin que j'ai emprunté et je suis retourné dans tes voies. » Dans les versets 81 à 83, nous trouvons un témoignage tout aussi puissant de la clarté de l'Écriture qui éclaire notre chemin. Je cite « Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis « Quand me consoleras-tu ? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. » Lorsque vous ne voyez rien et que tout est couvert par la fumée, pour ainsi dire, regardez dans la parole. Au verset 86, je lis « Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils sont dignes de confiance. » Verset 92, « Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. » Verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Verset 140, « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » Autrement dit, il dit que la parole est toute suffisante pour me donner des informations dont j'ai besoin. Elle fait fuir les ténèbres. Elle me donne la compréhension des choses. Oui, l'Écriture est pleinement suffisante pour recevoir le salut, pleinement suffisante pour savoir comment vivre, pleinement suffisante pour recevoir la joie et le bonheur et la satisfaction, pleinement suffisante pour recevoir une claire compréhension des choses difficiles à comprendre. Elle est aussi, cinquièmement, au verset 10 du psaume 19, pure. Elle subsiste à toujours. Et ici, il utilise le terme « crainte » pour parler de la Sainte Écriture. Pourquoi fait-il cela? Parce que la Sainte Écriture veut traduire la crainte ou la majesté de Dieu pour susciter la révérence dans la crainte de son nom et pour nous amener à l'adoration. Ce mot de crainte est utilisé dans le sens de ce qu'elle veut produire. L'Écriture veut produire la crainte ou la révérence ou le respect ou l'adoration de Dieu, et donc on dit qu'elle est la crainte de l'Éternel. Et puisque l'âme humaine est faite pour adorer, l'Écriture nous instruit pour que nous sachions qui adorer et comment l'adorer. Et de cette Écriture qui nous instruit dans l'adoration de Dieu, il dit « elle est pure, pensée admirable ». Le mot « ta'er » en est la racine. Ce mot signifie « absence d'impureté », « absence de saleté », »,« absence de souillure », »,« absence d'imperfection », c'est-à-dire « non souillée par le péché », sans le mal, sans corruption, sans erreur. Encore, contrairement aux pensées imaginatives mauvaises des hommes, la parole de Dieu est pure. Il n'y a aucune souillure de mal en elle. Vous pouvez vous appuyer sur elle et être sûr que ce qu'elle dit est absolument pur. La vérité qu'elle exprime ne contient aucune souillure du mal. Le témoignage du psalmiste dans le psaume 12 et au verset 7 est un magnifique témoignage. « Les paroles de l'Éternel, dit-il, sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré. La parole est si pure, sanctifiée, sainte, séparée du péché. » Maintenant, elle est vue en contraste avec les paroles des hommes. Elles ne sont pas toujours dignes de confiance, mais la parole de Dieu, si. Et en conséquence, vous verrez qu'elle dure à jamais, c'est-à-dire que vous pouvez toujours la suivre. Elle est toujours digne de confiance. Elle est la parole vivante et la parole éternelle, comme Pierre le dit dans 1 Pierre 1, verset 23, que je vous ai cité plus tôt. Elle ne change jamais, elle n'est jamais altérée, peu importe dans quelle génération. Et quand j'entends des personnes dire « Eh bien, la Bible n'est pas assez sophistiquée pour notre société de haute technologie », ils ne comprennent pas. La Bible est absolument pure et sans défaut, et sans erreur, et sans péché. Et donc, elle n'a besoin d'aucune mise à jour, d'aucune correction et d'aucun raffinement. Elle est parfaite. Devons-nous nous mettre à croire soudainement qu'elle contient des inadéquations, des erreurs, des imperfections qui nécessiteraient des corrections ou des modifications? Devons-nous nous mettre à croire qu'elle a besoin d'être soutenue par des personnes qui seraient plus sophistiquées que le Saint-Esprit qui l'a écrite? Devons-nous nous mettre à croire qu'elle ne peut pas purifier un cœur, une âme et une vie? Devons-nous nous mettre à croire que les gens doivent aller quelque part pour apprendre une formule qui leur permettrait de se débarrasser de leurs péchés et de recevoir une guérison intérieure, de voir leur âme purifiée par un praticien quelconque, quelque part, parce que la parole de Dieu ne serait pas toute suffisante pour délivrer les personnes du péché? Ne croyons-nous plus en sa puissance de purification pour une nation composée de personnes, à tel point que nous nous sentons obligés de nous tourner vers les pouvoirs politiques pour surmonter la faiblesse de la parole éternelle du Dieu vivant? Dieu nous interdit de penser cela. Ne serait-ce qu'un instant, la parole est compétente et toute suffisante en tant que parole pure pour purifier le cœur, pour purger le cœur. Et encore une fois, je vous appelle à lire le témoignage du psalmiste dans le psaume 119. Tout est là, dans le psaume 119, en commençant au verset 3. Et nous pourrions lire beaucoup d'autres passages, ou au verset 2 plutôt. Il dit « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Les gens de la parole sont purs, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment faites-vous pour purifier votre vie? Par une guérison intérieure? Grâce à la rencontre d'une personne qui peut agir sur votre problème grâce à ses pouvoirs magiques surnaturels, en faisant appel à une de ces sciences contemporaines de l'intelligence? Non. En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Au verset 38, il est écrit « Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. » La version King James dit « Établis ta parole en ton serviteur qui se consacre à ta crainte. Remplis-moi de ta parole. » Au verset 67, il est écrit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » La parole et l'obéissance vont ensemble. Verset 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Au verset 172. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Écoutez, la parole est toute suffisante pour purifier. Elle est pleinement suffisante pour purifier la vie. Elle est éternellement pertinente. Elle est tout ce qui est nécessaire pour la purification de l'âme. Nous n'avons pas besoin de praticiens, nous avons besoin de la parole de Dieu. Enfin, et surtout, il dit dans le verset 10 du psaume 19, « La parole, appelée ici les jugements ou les ordonnances, de l'Éternel sont vrais, et en conséquence, ils sont tous justes. » Le mot « ordonnance » signifie « verdict divin ». Nous voyons donc l'instruction divine, la loi de l'Éternel, le témoignage divin, le témoignage de l'Éternel, les principes divins, les statuts de l'Éternel. Il y a des décrets divins dans les commandements. Il y a l'adoration de Dieu dans la crainte de l'Éternel. Et maintenant, nous avons des verdicts divins venus du trône du juge de la terre. La Bible et la détermination judiciaire de Dieu pour la vie de l'homme et la vie éternelle venant du juge suprême. Et il dit, « Sa parole est vraie. » Oh, quelle affirmation! Est-ce que vous avez bien compris combien il est difficile pour les gens de notre société ou dans n'importe quel endroit sur la planète de trouver la vérité? Est-ce que vous avez une idée de la lutte à mener pour découvrir la vérité? Et nous avons la parole qui est vraie. La parole de l'Éternel est vraie, elle est toujours vraie. Donc, on peut toujours dépendre d'elle. Elle est toujours pertinente, toujours applicable, contrairement aux mensonges des hommes qui sont victimes de leur père, le diable menteur en personne. La parole est toujours vraie. Écoutez, bien-aimés, si la parole est pleinement suffisante pour le salut, si elle est pleinement suffisante pour toutes les compétences de la vie spirituelle, si elle est toute suffisante pour apporter une joie complète qui surmonte les chagrins et les luttes de la vie, si elle est toute suffisante pour apporter la compréhension des choses sombres et difficiles à accepter, si elle est toute suffisante pour purifier de tout péché, et si en tout ceci elle est toujours vraie, alors elle doit être la source pour tout ce qui concerne la vie spirituelle. Elle est tellement digne de confiance. Le fait est que dans l'Écriture que nous avons entre les mains, Dieu nous a donné une expression relativement parfaite de sa volonté éternelle d'établir toute la vérité nécessaire pour notre vie et notre devoir spirituel. Et je crois cela de tout mon cœur, car il s'agit du témoignage de Dieu lui-même. Et cette parole dans la vie d'une personne animée par l'Esprit de Dieu apporte une parfaite suffisance. Croire moins que cela correspond à porter atteinte à l'intégrité du Dieu vivant. Remarquez maintenant que le résultat du fait que l'Écriture est digne de confiance dans le verset 10 est qu'elle est totalement juste. Et l'idée de cette expression est qu'elle qualifie la parole dans sa totalité. Elle est totalement juste. Elle ne contient aucune erreur. Oui, mais bien plus que cela. Elle est une source complète, totale et pleinement suffisante de vérité. C'est pourquoi la parole dit des choses telles que Deutéronome 4, verset 2. « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Mieux vaut ne rien ajouter, mieux vaut ne rien retirer. Pourquoi ? Elle est entière, elle est complète. Il est dit dans l'Apocalypse 22, versets 18 et 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. N'y ajoutez rien, n'en retranchez rien. » Dans ses instructions sur la façon dont un roi devait vivre, dans le chapitre 17 de Deutéronome, au verset 19 et 20, la parole de l'Éternel dit, je lis, « Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. » La promesse de la bénédiction venait en rapport avec l'obéissance à la Sainte Écriture. Devons-nous croire que nous avons besoin de davantage de révélations ? Devons-nous croire que nous avons besoin de davantage de visions et de paroles de prophétie ? Vous voyez combien tout ceci est ridicule. La parole de Dieu est toute suffisante. Elle est vraie et absolument complète. Et je vous renvoie encore une fois au psaume 119, au verset 89. Commençons au verset 89. Il est écrit « Ah toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Merveilleuse affirmation de la pleine suffisance et du fait que l'Écriture est complète. » Au verset 128, il est écrit « C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. » Au verset 137, il est écrit « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. » Au verset 138, il est écrit « Tu fondes tes préceptes sur la justice et la plus grande fidélité. » Au verset 142, « Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. » Au verset 151, Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Au verset 160, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Formidable témoignage, source totale et complète de vérité spirituelle nécessaire pour la vie spirituelle, et qui répond parfaitement aux besoins spirituels de l'homme. Ceci, bien-aimé, est un court résumé de la magnitude de ces trois versets. Il représente la pleine suffisance de l'Écriture. Deuxièmement, je veux que vous voyez en conséquence de ceci la valeur de l'Écriture, sa valeur. Regardons les versets 11 et 14 du psaume 19. Je vais simplement les mentionner. Écoutez attentivement. Elle a beaucoup de valeur en tant que ressource complète pour la vie, sans égale dans sa valeur parce que, premièrement, elle est notre possession la plus précieuse. Au verset 10, ils, c'est-à-dire les jugements, sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Écoutez, la parole de Dieu est la plus précieuse des possessions. La parole de Dieu a davantage de valeur que tout ce métal précieux. Oh, si seulement notre société réalisait cela! Si de nombreuses personnes dans l'Église évangélique réalisaient que nous n'avons pas besoin de promettre aux gens des biens matériels, la parole est la plus précieuse des possessions. Sa valeur est suprême car elle conduit sur le chemin de la joie, elle convertit l'âme, elle rend le simple sage et toutes les choses que nous avons vues. Elle est la source de la plus précieuse des possessions. Deuxièmement, le plus grand plaisir. Dans le verset 11, il est écrit « Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Rien n'est aussi doux, rien ne donne autant de plaisir, rien n'est aussi enrichissant, rien n'a autant de valeur personnelle. Elle apporte le plus doux de ce que l'on peut trouver sur terre. Que recherchez-vous? Où trouvez-vous votre plaisir? Je veux honnêtement vous dire qu'il n'y a pas de plaisir équivalent dans la vie au plaisir et à la joie, au plaisir durable et à la joie durable des heures passées dans la parole de Dieu. Vous voyez, la résolution de tous nos problèmes n'est pas le résultat du manque de pertinence de l'Écriture. C'est le résultat d'une application adéquate de l'Écriture, d'une étude appliquée de l'Écriture. L'écriture est le plus précieux de ce que nous pouvons posséder et la source du plus grand des plaisirs. Troisièmement, elle est la source de la plus grande protection. Au verset 12, il est écrit « Ton serviteur aussi en est averti ». Elle est une source de protection. Face à la tentation, au péché et à l'ignorance, nous avons besoin de la parole. Elle nous protège, nous la gardons dans notre cœur afin de ne pas pécher. Et, quatrièmement, elle est la source du plus grand profit, car, pour qui les observe, la récompense est grande. La véritable récompense n'est pas ici et maintenant. La véritable récompense n'est pas une confession positive, la visualisation de ce que vous voulez maintenant. La véritable récompense est l'obéissance à l'Écriture qui amène la gloire à venir. Au lieu de vivre pour ce que nous pouvons amasser ici et maintenant, comme les préoccupations cultes des chrétiens pour la santé, la richesse et la prospérité, et le succès immédiat, nous avons besoin de connaître la bénédiction de vivre pour la récompense éternelle. Oui, l'Écriture est la seule qui nous donne ce que nous pouvons posséder le plus précieux, sans hésitation, le plus grand plaisir, la plus grande protection, le plus grand profit, et cinquièmement, au verset 13 et 14, la plus grande purification. Elle est purificatrice. Regardez la réponse du psalmiste. Malgré tout ce qu'il traverse, il dit « Qui connaît ses fautes involontaires ?» Au milieu de ces affirmations sur l'Écriture, « Comment puis-je comprendre pourquoi je pêche ? Pourquoi violerais-je ce qui peut me transformer et me rendre sage, remplir mon cœur de joie et éclairer mes yeux, purifier mon cœur et répondre pleinement à tout ce dont j'ai besoin ? Pourquoi violerais-je une telle vérité ? Comment puis-je comprendre ? Dans la parole, il crie vers Dieu. Je cite « Pardonne-moi ceux, les péchés que j'ignore. Il s'agit de ceux que je ne prévois pas, que je n'ai pas prémédité. Ils sont cachés. Et peut-être que je ne m'en souviens pas pour les confesser. » Puis il dit « Préserve aussi ton serviteur des péchés orgueilleux. Ce sont des péchés que je vois et prémédite, je les planifie et je les connais, les péchés d'arrogance. » Je cite « Garde-moi des péchés que je ne connais pas et de ceux que je connais, et ne les laisse pas me dominer, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Ô Dieu, retiens-moi. » L'expression « grand péché » signifie « s'échapper, dépasser les bornes, échapper à la domination de Dieu, au royaume de la grâce. » Vous voyez donc que lorsque nous lisons l'Écriture, nous allons à contre-courant et nous réclamons la pureté de notre cœur. Oui, elle est source de la plus grande purification. Vous devriez garder cette petite liste quelque part et la regarder pendant que vous étudiez la parole de Dieu. Elle vous rappellera ce qu'elle peut faire dans votre vie. Elle est ce que vous pouvez posséder de plus précieux, car elle vous donne ce qui est nécessaire pour chaque situation de la vie. C'est une richesse glorieuse. Elle est le plus grand des plaisirs. Elle remplit le cœur de joie en toutes circonstances. Elle est la plus grande protection, car elle nous avertit. Elle est du plus grand profit. Elle nous conduit vers la récompense éternelle, et elle est la plus grande purification. Elle purifie le cœur. La toute suffisance de l'Écriture, sa valeur, finalement notre engagement envers elle. Quelle est notre réponse à tout ceci? Elle est énoncée dans le verset 15. Alors que le psalmiste lance ce cri, je pense que ce cri viendra de votre cœur. Je cite « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Il dit « Ô Dieu, que les choses que je pense et celles que je dis soient acceptables devant ta face. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en accord avec quoi ? Avec ta parole, ta révélation. Et il dit, fais de moi un homme de la parole. Rends mes pensées bibliques, rends mes paroles bibliques. Garde-moi dans la parole. C'est le bon engagement à prendre. Je crois vraiment que nous voyons des choses tristes se passer dans l'Église évangélique aujourd'hui. J'en ai parlé en détail. Si vous n'étiez pas présent la semaine dernière, vous devez vous procurer l'enregistrement et l'écouter. Des personnes s'éloignent de la parole de Dieu tout en affirmant qu'elle est la vérité et courent après tout un tas de choses parce qu'ils ont le sentiment que la parole ne peut pas répondre à leurs besoins. Et c'est un mensonge du diable qui a pris de l'importance, car ils n'ont jamais vraiment vécu selon la volonté de Dieu, et ils n'ont jamais connu cette noblesse de fouiller chaque jour les Écritures, comme les habitants de Bérée. Et ils n'ont jamais permis, comme le dit Paul aux Colossiens, que la parole demeure en eux dans toute sa richesse. Ils l'ont lue hâtivement et n'ont jamais apprécié la puissance de sa profondeur. Et combien en ces jours nous devrions appeler l'Église de Christ à revenir à cette préoccupation qui les consume, la parole de Dieu. Que notre message ne soit pas le message de la Bible ajouté à celui du monde, mais qu'il soit le message de la pleine suffisance de la parole de Dieu seul. Comme un vieil Africain a dit un jour dans une tribu, en s'adressant au grand missionnaire Robert Moffat, il a brandi une Bible en disant à ce missionnaire « Voici la fontaine où je bois, et l'huile qui éclaire ma lampe. Qu'il en soit ainsi pour nous. Prions. Dans votre cœur, en ce moment, pouvez-vous, devant le Seigneur, renouveler votre alliance pour vous engager envers sa parole? Pouvez-vous rassembler vos pensées pour faire cela? Sceller une alliance avec lui? Je veux dire que ce que nous avons entendu ce matin venant de la parole de Dieu est sans égal dans la vie d'un croyant. C'est de la plus grande importance. Scellerez-vous avec Dieu cette alliance pour être un homme ou une femme de la parole afin d'y trouver ce dont vous avez besoin de la mettre en application? Oh, vous ne saurez jamais ce que la parole peut faire si vous ne l'étudiez pas. Vous ne saurez jamais ce qu'elle peut faire si vous ne la mettez pas en pratique. Elle est la parfaite source spirituelle grâce à la puissance du Saint-Esprit. Père, je te prie pour ma propre vie et pour la vie de tous ceux qui sont présents et qui entendent ce message. Que nous puissions nous engager envers ta parole comme nous le lisons dans le psaume 138. Je lis « Tu as magnifié par-delà toute renommée. Seigneur, aide-nous à devenir comme les habitants de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures. Aide-nous à trouver en elles, comme ce vieil Africain, la fontaine où nous pouvons nous désaltérer et l'huile qui éclaire notre lampe. Et rends-la vivante en nous, Saint-Esprit, afin qu'elle ne soit pas d'une froideur orthodoxe ou académique, mais la vérité vivante. Au nom de Jésus, Amen. »
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.